En demandant la bénédiction de Dieu pour leur mariage à l'Église catholique, les deux fiancés, même si l'un d'eux a des doutes sur la foi, qu'on appelle agnostique, n'est-ce pas, mais qu'il a été, ou s'il est baptisé, mais non catholique, donc les deux fiancés, même si l'un des deux est baptisé et a des doutes, si les deux ont des doutes, ben, on se demande pourquoi vous êtes là, mais ça veut dire que quand même vous vous dites « Dieu existe et c'est au nom de Dieu qu'on va vouloir s'unir ». Si vous êtes venu uniquement parce que votre grand-mère a absolument insisté que vous fassiez pour un mariage religieux, la porte elle est bleue, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est lourd un mariage religieux. C'est vrai, c'est authentique. S'il est baptisé mais non catholique, par exemple protestant ou orthodoxe, et ou s'il est d'une autre religion ou sans religion, donc vous venez auprès du Créateur, le Père qui aime ses enfants. Il est bon alors de se rappeler ce qui est notre Père qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Parce que c'est au nom de la religion révélée que vous allez vous marier. C'est pas un mariage religieux comme ça. C'est un mariage chrétien. Et alors, figurez-vous que donc, comme vous êtes tombé chez les intégristes, même si je suis quand même chanoine de la cathédrale et dans le sénat de l'archevêque, qui lui est habillé en pantalon blanc, chemise bleue et veste blazer, donc vous voyez, moi je suis en soutane là parce que c'est dimanche, mais certains jeudis soirs je serai peut-être en clergyman, hein, je suis pas si fondamentaliste que ça, quoique mon vicaire il est tout le temps en soutane là. Il vient d'arriver, là, j'ai eu 4 ans, l'abbé Éric Iborra, le père Éric Iborra. Moi, c'est donc monsieur l'abbé Marc Gelfucci, le père Marc Gelfucci, monsieur le chanoine Marc Gelfucci, voilà. Donc, vous avez 3 occasions de m'appeler. Monsieur le curé, aussi, voilà. Eh bien, lui, il est tout le temps en soutane. Mais c'est pas le problème. Le problème est de savoir, justement, que vous soyez dans une paroisse youpi, une paroisse austère comme ici, eh bien, c'est le même mariage. C'est au nom de Jésus, le vrai Dieu. Et toutes les autres religions, je vais vous choquer, hein, sont fausses. Elles ont un problème. Elles n'ont pas la pleine vérité sur Dieu, sur la divinité. Même s'il y a des personnes qui sont dans l'ignorance invincible de la parfaite connaissance du vrai Dieu, à ce moment-là, elles sont jugées à leur mort sur leur sincérité, en effet. Mais, si vous voulez, quand on a une bisbille avec les juifs pour savoir si Jésus est le Messie, et quand on a des petites querelles avec les musulmans pour savoir s'il est plus qu'un prophète, parce que pour les musulmans, Jésus est né d'une vierge, et Marie est une des femmes les plus importantes de l'islam, Mariam, vous voyez. Et donc, mais là où on n'est pas d'accord, c'est que Dieu peut pas s'incarner, c'est pas possible. Il est tout puissant et tout ça, il est au-dessus de sa création, il peut pas s'unir à une nature humaine. C'est un blasphème, c'est une horreur. Bon. Et le prophète Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a été subtilisé en attendant la fin des temps. Parce qu'ils ont cette partie-là. C'est des prêtres nestoriens et des rabbins qui ont fait la préparation religieuse, si vous voulez, de l'islam. Donc vous avez un mélange de judaïsme et de christianisme. Et donc vous avez Jésus qui revient à la fin des temps pour tuer le Dajjal, l'antéchrist, voyez, qui régnera sur le monde avec une gouvernance universelle et une banque universelle, le bonheur absolu. Sauf que il sera pas rigolo et ça sera une dictature extrêmement fine, voilà, d'après l'Apocalypse. Et donc les musulmans, eux, croient que le Christ va revenir à la fin des temps pour vaincre l'antéchrist. Mais en tant que super prophète, c'est curieux que ce soit pas Mahomet qui vient pour vaincre l'antéchrist. Mais Jésus, sans doute parce qu'il voulait aussi attirer les chrétiens. Parce que nous, nous croyons que Jésus est le Verbe de Dieu, uni à notre nature humaine, qu'il est vraiment mort sur la croix, que sa nature humaine a été tuée, c'est-à-dire que son âme n'a pas plus supporté les souffrances, et qu'il lui-même a décidé que son âme quitte son corps, et donc ça s'appelle la mort corporelle. Et qu'il est ressuscité. Donc les musulmans ne croient pas ni en la crucifixion, ni en la résurrection. Ils croient que Jésus est en attente, et qu'il n'est pas mort sur la croix. Il va revenir à la fin des temps. Ça aussi on y croit. Il va revenir à la fin des temps, d'ici 5-10 ans. Et donc, ce mariage est un mariage chrétien. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Il est bon alors de rappeler qui est notre Père, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. En effet, même si des fiancés ont reçu une transmission des beautés de la foi chrétienne, c'est parfois un peu lointain, et la baisse actuelle de la présence à la messe dominicale, à laquelle vous êtes obligatoirement conviés par Dieu, au nom du troisième commandement, et vous péchez quand vous n'allez pas à la messe le dimanche, ou au moins le samedi soir, puisque maintenant il y a la messe anticipée. Mais je vous expliquerai tout ça pour bien vous appuyer sur votre conscience et tout ça. Mais ça, tant pis pour vous, hein, vous vouliez vous marier, hein, il fallait aller à la pagode. Hein, voilà. C'est plus simple. Donc, atténue quelque peu la prière habituelle, la présence du Dieu Sauveur qui partage nos vies. Parfois même, certains fiancés n'ont pas fait leur première communion, alors qu'ils ont été baptisés, petits. Reçu Jésus dans la Sainte Hostie. Alors, le jour de leur mariage, est-ce qu'ils vont avoir une messe, est-ce qu'ils vont pas avoir de messe? Voilà. Je vous expliquerai pourquoi on peut être marié même s'il n'y a pas de messe. Mais par contre, le mariage est toujours un sacrement entre deux non-baptisés, entre deux baptisés. Vous voyez? Et donc, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous avez une grâce particulière. Et je vous expliquerai le lien naturel entre un baptisé et une non-baptisée. Vous aurez tout. Et donc, ne connaissent pas ce trésor tout en étant prêts à l'apprendre éventuellement. Il y a parfois des personnes qui, lors d'une préparation mariage, par exemple, demandent la confirmation après, dans l'année qui suit. Oui. Si vous vous mariez en Espagne ou en Italie, là-bas, ils rigolent pas un instant. Si on est baptisé, catholique, ils veulent qu'on soit confirmé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la va-vite, on vous confirme dans certaines paroisses. Moi, non. Si vous n'êtes pas encore confirmé, mariez-vous. Et si vous voulez vraiment recevoir un épanouissement particulier que de l'amour de Dieu par la confirmation et son amour qu'on appelle l'Esprit Saint, alors on fait une préparation particulière. Mais on fait pas ça à la va-vite en 2 mois pour que vous ayez le tampon pour vous marier en Italie. D'ailleurs, de nos jours, les prêtres italiens savent que les Français sont d'affreux impies, enfin, eux le deviennent aussi, hein. Donc ils exigent pas la confirmation. Et par contre, voyez-vous, le mariage reste toujours une chose sainte. Qu'on soit baptisé ou qu'on ne soit pas baptisé, le mariage est toujours bon. Voyez, même si on est agnostique, si on ne croit pas beaucoup, tout ça, le mariage est une réalité naturelle. Par contre, on ne vous mariera que si vous voulez être fidèle jusqu'à la mort, si vous ne voulez pas être polygame, parce que ce n'est pas dans la nature du mariage intérieur, voyez, ou polyandre, c'est-à-dire que vous prenez une femme, prend plusieurs maris, voilà. Si vous êtes des Amazones de l'île de je sais pas où, ça sera non. Mais moi je veux 2 maris. Jacques Attali m'a dit il y a l'amour pluriel, donc je vais faire un trouple. Ben non. Voilà. Non, pas de polygamie. L'ouverture à la vie aussi. Si vous voulez pas d'enfants, eh bien restez paisiblement en concubinage si vous l'êtes, ou ne vous mariez pas, mais l'ouverture à la vie fait partie du mariage. Alors, Donc, si vous osez revenir jeudi prochain, vous voyez, donc, on développera toutes ces petites choses. La préparation au mariage n'est donc pas seulement l'occasion d'un enseignement sur la promesse de vie commune, sur les joies et les enrichissements mutuels, comme sur les difficultés. Des conseillers conjugaux expérimentés peuvent en parler avec sagesse. Vous pouvez vous marier avec, des associations, très bien. Et qui vont vous faire des livres Psychologie Magazine extraordinaires, qui vont vous expliquer comment ranger une brosse à dents, parce que ceci... Mais c'est pas notre propos. Un peu quand même, hein, j'ai de la psychologie, hein, je confesse les gens. Je les écoute. L'engagement dans la foi, en présence et sous le regard quotidien du Père, est particulier. Ainsi, les fiancés seront invités à trouver des temps de prière dans leur vie commune. Sinon, c'est difficile hein, de tenir le mariage si vous êtes pas, si vous croyez pas un peu à l'invisible. Hein. Le visible, sinon, il vous pète à la figure de temps en temps. Ils s'engageront à recevoir leurs futurs enfants dans la bonne nouvelle du baptême et de la connaissance du Sauveur Jésus dans le catéchisme de l'enfance. Si vous ne vous engagez pas à faire tout votre possible pour baptiser vos enfants et les catéchiser, la porte est bleue. Non, c'est vrai. Si vous voulez, vous avez mille occasions de vous marier civilement et autres. Un mariage religieux, vous vous engagez à ce que les enfants soient baptisés et catéchisés dans la foi chrétienne. Si l'un des fiancés n'est pas catholique, en acceptant d'accompagner son futur conjoint, il est conscient de son engagement de faire son possible pour transmettre sa foi. Donc nous, on est un peu la maison mère, et donc on souhaite que les enfants soient plutôt catholiques. Voilà. Mais ensuite, le mariage et la paix du mariage l'emportent s'il y a des tensions et tout ça. Voilà. On fait son possible pour que les enfants aient la transmission de la foi catholique. Mais n'ayez pas peur, c'est moi qui l'ai écrit, hein, vous sentez bien. Ce seront des évocations rapides qui, si elles sont bien connues de certains, qui attendent un enseignement sur le mariage, ne seront pas trop longues. Elles occuperont des moments du premier dimanche et des six rencontres. C'est la raison pour laquelle nous commençons cette préparation par une méditation de la puissance et de la beauté du Créateur, des purs esprits, les anges, et de la nature humaine, corps et âme. Le récit de la Genèse nous inspirera pour atteindre l'intention de Dieu qui donne la vie à l'homme et à la femme. Dans une seconde partie, nous verrons dans l'histoire religieuse de l'humanité et dans l'histoire sainte du peuple juif, les promesses et les messages du Père pour donner toujours l'espérance du bonheur et du salut dans la venue du Sauveur. Les Juifs attendent encore, hein. Ils ont une patience incroyable, ça fait 2000 ans qu'ils attendent encore. Nous on est là, on dit mais il est arrivé. Et de, non, il n'est pas encore arrivé. Oh, ça alors. Et pourtant, les prophètes, le roi David, ils avaient dit que toutes les nations entendraient parler du Sauveur. C'est ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Non, c'est pas le. Bon. Voilà. La naissance. Excusez-moi. Alors, plus je suis fatigué, donc dans les jeudis prochains, et plus alors je dis, mais n'importe quoi. Si vous êtes lassé de mon humour, dites à un moment donné comme un parachute. La naissance du Christ au sein de la Sainte Famille, de la Vierge Marie et du Père adoptif Saint Joseph est l'occasion de recevoir la nouvelle de l'incarnation du Dieu fait homme, image du mariage entre Dieu et l'humanité, mariage du Christ et de l'Église. Oula, c'est mystique ça. On va voir ce que ça veut dire. Par la croix, erreur. Et la résurrection, l'agneau de Dieu, l'époux annoncé par Saint Jean-Baptiste, va accomplir le mystère du passage de la mer Rouge en la nuit pascale. C'est-à-dire qu'il va mourir et va ressusciter. Il offre sa vie pour nous donner la vie éternelle. La séance 3 développera les fondements principaux de la relation d'amour de l'homme et de la femme à l'image de l'amour du Christ pour l'humanité. L'engagement n'est pas forcé, mais libre. Donc si vous êtes là forcé, à un moment donné quand même, vous me prenez à part et vous dites « j'ai pas envie de me marier ». Bon. Une alliance. Il est un choix en conscience, première connaissance des qualités et des défauts. Il est dans la fidélité et l'unité. La séance 4 abordera le projet de vie, vie quotidienne, vie professionnelle, fécondité et accueil des enfants. La séance 5 se concentrera sur la grâce qui accompagne le mariage, sacré ou sacramentel. Sacré, c'est quand l'un des deux n'est pas baptisé, et sacramentel, quand les deux sont baptisés. Parce que, il y a une demande spéciale lorsque les deux sont baptisés, par rapport à Dieu qui s'est fait homme. Mais quand on n'est pas baptisé, on doit au moins croire en la vérité de la nature humaine et du mariage. Si vous croyez en rien et que vous dites, oh bon, non, moi je divorce dans 5 ans si ça ne va pas, eh bien, c'est pas possible. Il faut que la personne agnostique ou n'ayant pas de religion précisément soit d'une honnêteté naturelle telle qu'il sache faire une promesse. C'est-à-dire, à la vie, à la mort. Mais bon, de nos jours, on vit plus longtemps et tout ça, eh ben vous vous supporterez plus longtemps. Il y a des vieux couples. Moi, quand j'ai rendu ma thèse sur le mariage, il y avait ça ne s'invente pas, j'étais là avec mon manuscrit. Enfin, manuscrit, c'est tapé. C'est en 2008. Et je sors du métro pour aller déposer dans la boîte aux lettres de mon directeur de thèse et je vois un vieux couple de Japonais. Alors les Japonais, vous savez jamais quel âge ils ont. À partir de 60 ans, 70 ans, ils peuvent avoir 70 ans ou 95 ans. Donc je suis là, j'essaie de voir un peu. Et ils sont accompagnés par leur fille. Et elle est en kimono. Petit kimono de déplacement. Il devait aller à quelque part, mais il sortait du métro quand même. C'est pas souvent que vous avez une personne en costume traditionnel japonais. Mais pas le grand kimono, c'était un petit. Mais robe droite, si vous voulez, avec un nœud. Et j'ai demandé à la fille, parce que je me suis dit, ils ne doivent pas parler français couramment, depuis combien de temps ils étaient mariés? Elle m'a dit. 50 ans. Et puis, un jour, j'étais à Bordeaux, j'ai vu un vieux couple de musulmans, bras dessus, bras dessous. Mais alors, ils étaient vieux, parce qu'ils avançaient. Voilà. Donc, c'est une réalité naturelle, vous voyez, de la nature humaine. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir des tensions extrêmes, mais justement, le Christ nous demande de nous pardonner. La seule chose qui est à tolérer, si vous voulez, c'est quand il y a un véritable danger. Et là, c'est ce qu'on appelle la séparation de corps. Mais si la personne devient violente, dangereuse et tout ça, on peut se séparer, mais on reste unis. Et ça, j'en parlerai. Et c'est la difficulté de nos jours, puisque on ne vous parle pas et on vous éduque pas dans cette persévérance et dans le pardon. La séance 5 se concentrera sur la grâce. L'importance du sacrement de confirmation sera présentée. Lors de la séance 6, nous accueillerons le témoignage de Sophie Martin-Gribowski, accompagnée de son époux, conseillère conjugale et familiale. Au centre de liaison des équipes de recherche sur l'amour et la famille, le CLER. Nous terminerons nos rencontres par un repas convivial pour faire le bilan et vous inviter à faire une retraite spirituelle. À la fin, vous avez des adresses. Il est bon de partir au moins un week-end, un samedi, dimanche, dans un lieu de retraite de préparation au mariage. Vous voyez ? Donc, vous avez les chanoines de la grâce, c'est plutôt traditionnel, mais ils sont très sympathiques. Ils sont pas jansénistes. Voilà. Jansénistes, c'était ultra, ultra, ultra dur, ça rigole. Voilà. Mais c'est une hérésie même. Non, les chanoines de la grâce sont très gentils. Foyer de charité, voilà, c'est classique. Les frères Carmes d'Avon, normalement ils ont la foi. Alors. Centre spirituel des jésuites, ça c'est pour ceux qui aiment le risque. Mais ils peuvent avoir beaucoup de psychologie. Par contre, en ce qui concerne les vérités de foi, parfois ils ont des lacunes. Et vous avez aussi la communauté Saint-Jean qui fait des préparations au mariage. Voilà. Et si vous voulez lire quelque chose qui concerne le mariage un peu ardu, tout en épatant totalement ardu, vous avez l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, ou Amour et Responsabilité. Voilà. Et sinon, vous avez des livres « Vivre ensemble ou se marier » aux éditions de l'Emmanuel. En général, les éditions de l'Emmanuel font de bons livres sur le mariage. C'est la communauté de l'Emmanuel. Vous savez, c'est les dévisseurs d'ampoules. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, excusez-moi. Et donc, c'est ceux qui demandent au Saint-Esprit d'inonder leur cœur et tout ça. Et mais les manuels sont les plus sérieux. Hein. Très bien. Première séance. Existence de Dieu, Créateur et Père. Premièrement, Dieu, Esprit éternel, intelligence, volonté, artiste, plein de fantaisie de la création. Qui est Dieu? Alors, je vous préviens, c'est très peu interactif. Je ne suis pas... C'est pas alcoolique anonyme. Hein. Je m'appelle Paul. Je suis alcoolique. Ça fait 3 mois. Je m'appelle Martine. Je suis alcoolique. Ça fait 2 ans. Oh, vous connaissez pas? Bon, voilà. Donc, ils n'ont pas bu. Ils précisent pas. Voilà. Alors, Dieu est un esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un esprit? C'est un être qui n'est pas composé de matière. Alors, quand vous avez des gens qui essayent de rentrer en contact avec les esprits et qui font des appareils à détection de mouvements des molécules de l'air et des choses comme ça, c'est du pipeau. Vous voyez, les esprits n'ayant pas de matière, ils ne peuvent pas bousculer la matière. Sauf à le vouloir. C'est autre chose. Par exemple, si pendant que je vous parle, vous avez le stylo qui part comme ça, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que cette matière n'est pas vivante. Elle est inerte. Elle n'a pas un principe de mouvement autonome. Vous voyez? Une bactérie est vivante, elle bouge toute seule. Quand vous voyez une bactérie bouger sous le microscope, vous allez dire « Oh, incroyable !» Non, non, elle est vivante, c'est normal qu'elle bouge. Par contre, si mon portable, tout d'un coup, s'élève comme ça et reste en l'air, là, vous ferez une drôle de tête. Hein, parce que c'est une matière inerte. Même si, en ce moment, elle est parcourue par des courants électriques, enfin des électrons qui passent dans des circuits métalliques, pour son office. Mais c'est un mouvement particulier, c'est des images numériques. Mais c'est pas vivant au sens propre, l'électricité. C'est quelque chose qui bouge, mais dans une stimulation. Tandis que le vivant n'a pas besoin d'être stimulé pour bouger tout seul. Eh bien, Dieu, lui, est vivant et n'a pas de matière. Par contre, il peut créer de la matière et il peut la faire bouger. Les esprits, eux, ne peuvent pas créer de la matière et peuvent la faire bouger. Lors d'un exorcisme, voyez-vous, puisque c'est croustillant, n'est-ce pas? Quand vous avez quelqu'un qui s'envole, qui fait 50 cm, 1 mètre en l'air, et que vous êtes en train de prier, tout ça, et que vous avez 2 malabars qui essayent de le maintenir, c'est pas lui qui s'envole. C'est un pur esprit qui a la capacité de faire bouger de la matière d'une manière particulière. Nous avons un esprit, nous sommes des anges, entre guillemets, un principe de vie immatérielle qui anime de la matière. Donc vous criez pas, vous n'avez pas peur quand je bouge, vous voyez ? Bien parce que j'ai un esprit qui mobilise mon corps. Mon corps a des fonctions chimiques et biologiques qui sont en harmonie avec mon âme. Mais si vous voulez, quand il y a un minimum de stimulation de l'âme par rapport au corps, un grand minimum, vous voyez. Quand je dors, je peux pas faire ça, voyez. Et si mon âme sort de mon corps, en un instant, par exemple, j'ai une rupture d'anévrisme et boum, voyez. Là, vous allez là, mince alors. Et vous pourrez pas me bouger facilement, alors que je suis encore très chaud. Je viens de mourir. Eh ben, mon corps bougera plus. Alors pourtant, biologiquement, tout ça, ça peut marcher. Vous dites, mais oui, mais non, c'est mécanique parce que ça a pété au cerveau, donc le cerveau sur l'ordinateur central, c'est pour ça qu'il peut plus bouger. Il y a quand même, si vous voulez, l'âme a une action absolument incroyable sur le corps. Eh bien, les anges, eux, peuvent aussi bouger la matière. Même si c'est pas leur corps, puisqu'ils n'en ont pas. Un esprit est un être qui n'a pas de matière. Voilà. Un pur esprit. Dieu est un pur esprit. Il n'a pas de corps, il n'a aucune matière. Ouais. Alors vous allez me dire, et comment il voit ? Je suis désolé, mais si vous voulez, les yeux sont une manière de voir extrêmement rudimentaire par rapport aux esprits. Un œil, une limaille de fer, la vieillesse, hein, un glaucome, et vous voyez plus. Hein. Donc celui qui conçoit ce petit ordinateur, si vous voulez, il va mettre un appareil photo, il va mettre un principe de vue. Mais qu'est-ce qui fait ce petit ordinateur ? Qu'est-ce qui fait cette main ? Qu'est-ce qui fait la cellule de ma peau ? Qu'est-ce qui fait les bactéries et les enzymes qui sont dans mon estomac ? C'est une intelligence absolument incroyable et organisatrice. Vous voyez ? Et c'est, il n'a pas Dieu, celui qui fait ça. C'est pas avec des yeux qu'il est là. Ah, alors, je vais créer une cellule. Ah, bah, c'est petit, hein. Oh. Ouais. Non. Dieu, les purs esprits n'ont pas d'organes de vue. Et alors, comment ils voient ? Mais ils voient beaucoup mieux que nous. Puisqu'ils voient tout. Ils voient même l'assemblage ils voient si vous voulez, ils voient les protons et les neutrons dans les noyaux des atomes. Pour eux, ça doit être passionnant. Et c'est extraordinaire ce qu'un esprit peut voir. Et il rentre partout dans la matière. Et donc Dieu, lui, est un esprit, mais lui, il est éternel, c'est-à-dire qu'il a toujours existé. Personne ne l'a fait, Dieu. C'est un être incréé. C'est lui qui existe. Il tient son existence de lui-même et depuis toujours. C'est une particularité qui fait la toute-puissance. Quand vous êtes Dieu, que vous avez toujours existé, vous êtes le tout-puissant. Le vrai tout-puissant. C'est impressionnant d'avoir toujours existé. Et donc, avant qu'il ait créé d'autres esprits qui sont les anges, avant qu'il ait créé la matière, bing bang, une théorie d'un prêtre d'ailleurs, si vous voulez, il était seul et il n'y avait rien. Mais il n'y avait pas un peu alors il y avait des ténèbres, il y avait quoi ? Il faisait jour, il faisait pas jour, mais il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien, il y avait lui. Et il a créé les anges avant de créer la matière. Donc les anges, ils existaient. dans du rien. Il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y avait pas de cosmos, il n'y avait rien. Rien au point de vue matériel, hein, je dis. Hein. Parce que quand vous existez, par exemple, quand le soir venu, vous avez coupé la lumière, vous êtes là dans votre lit, quand vous pensez, et des choses tellement abstraites que même les cellules de votre cerveau et vos neurones sont absolument incapables de vous dire ce que c'est que l'amitié, que la gratitude, le pardon. Ce n'est pas les neurones qui vous font ça. Hein. C'est dans votre âme que ça se passe. Eh bien, c'est dans du rien matériel que ça se passe. Or, vous le vivez très très bien. Ça s'appelle votre esprit. Alors, un esprit humain, ça s'appelle une âme. Mais c'est la même chose, hein. Vous avez des auteurs spirituels, des auteurs philosophiques qui essayent de vous expliquer la différence entre l'esprit et l'âme. En fait, c'est la même chose. On appelle âme un esprit qui anime de la matière ou qui vit dans une vie terrestre. Oui. C'est anima, c'est dessin animé. Hein, ça bouge. Sauf que l'esprit en lui-même, alors du coup on réserve le mot esprit aux pensées les plus élevées et les plus spirituelles, c'est le cas de le dire, et l'activité plus concrète au mot âme. Mais c'est la même réalité immatérielle. Nous ne sommes pas notre corps. Vous avez bien des mammifères qui ont des cerveaux, mais ils n'ont pas l'intelligence et la volonté. Et ça, je vous le dirai un peu plus justement. Dieu est un esprit éternel, c'est-à-dire qu'il a toujours existé, et il a l'intelligence, c'est-à-dire qu'il comprend tout. Il sait tout. Il sait le passé, même quand il était, justement, quand il était seul. Il connaît le présent, mais il connaît tous les présents. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il connaît toutes les pensées des 7 milliards de personnes sur Terre en ce moment. Et vous ne savez pas combien il a créé d'anges. Il en a créé des milliards de milliards, des anges. Ça prend pas de place, ils ont pas de corps. Et combien d'anges peuvent prendre place dans une phalange de doigts? Ça veut rien dire. 40 milliards. Ils n'ont pas de lieu, les anges. Par contre, lorsqu'ils agissent, on sait qu'ils sont là. Vous voyez? Tout d'un coup, je vous parle et... voilà. Alors, vous allez rigoler, mais enfin, une histoire vraie, vous voyez, vous avez pendant un exorcisme, vous avez un pot de fleurs dans un appartement qui est parti en l'air. Alors, l'exorciste, lui, il avait l'habitude, donc il s'en fout complètement, mais les gens qui étaient là, il s'est explosé au mur, hein, c'est pas... Ou quand vous avez des gens qui font du spiritisme et qui essayent de rentrer en contact avec des tueurs en série, si vous voulez, rentrer en contact avec les esprits, plutôt que de prier les saints anges pour qu'ils prient pour vous, point barre, et vouloir que les esprits, faire quelque chose avec les esprits, c'est comme si vous alliez en prison dans une zone ultra sécurisée et que vous vous dites, j'aimerais dormir ce soir avec un étrangleur. C'est moins dangereux. Les démons sont des personnes angéliques extrêmement méchantes. Et donc, les gens qui font, par exemple, un alphabet, avec un verre ou avec un machin, si. Vous avez des escrocs. Mais il y en a qui font vraiment du spiritisme. Et c'est vraiment un ange qui répond. Un démon, hein, puisque les anges ont interdiction de s'amuser avec les êtres humains. Ils sont là uniquement pour les aider à faire le bien. Ou alors, vous avez une cartomancienne. Si c'est quelqu'un qui est là pour vous voler, elle va vous regarder, si vous êtes en forme et tout, votre âge et tout. Est-ce que je vais retrouver un métier? Puis là, si vous commencez à trembler, elle est cotorep, elle. Hein. Donc, ça va être difficile. Bon. Mais si vous avez des vraies voyantes, des vrais voyants qui invoquent de vrais esprits, ils peuvent connaître des détails de votre vie qui vont vous sidérer. Et là, vous allez donner les 50 euros. Mais seulement, voyez-vous, les anges, ne connaissent pas l'avenir. Et vous n'avez aucun spirit, aucun sorcier, aucune sorcière authentique, hein, pas les escrocs, hein, les vrais sorciers, les vraies sorcières, vous savez qu'on brûlait. Voyez. Elles faisaient des poisons, c'est pour ça qu'on les brûlait. Hein. C'était des personnes de droit commun, hein, en général, les sorciers et sorcières. Vous vouliez tuer quelqu'un, vous alliez voir un sorcier et une sorcière qui avait un art consommé sans être pharmacien ou pharmacienne des plantes, et vous pouvez tuer votre voisin sans aucune difficulté avec elle. C'est pour ça qu'elles étaient condamnées à mort. Elles faisaient aussi les avortements. Donc elles n'étaient pas aimées. Mais les vrais sorciers ou vraies sorcières sont ceux qui sont spirites. Et donc ils peuvent même vous faire la voix d'un être cher mort. Qu'elles peuvent même vous faire apparaître l'esprit, le fantôme d'un mort. Ça, c'est les vrais de vrais de vrais. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous faire peur, vous avez un mariage religieux quand même. Et donc, mais il y a un truc qu'ils ne savent pas, c'est le futur. Et vous pourrez donner 40 000 euros pour égorger un coq, un marabout. Il y en a qui demandent ça. Faut être con, hein. Mais bon. Eh ben, vous pourrez jamais avoir le tiercé. Jamais avoir le loto. Vous vous rendez compte? Ils savent même pas. Maintenant, ils peuvent même pas gagner sur Betclic ou Winamax. Ils peuvent pas sentir l'endroit dans le stade où ils vont exulter parce qu'il va y avoir un but. Et s'il n'y a qu'un but, 1-0, ils ne peuvent pas sentir dans le futur l'exaltation des... Non, ils sont secs. Aucune connaissance du futur. Et à chaque fois que vous avez des films, des feuilletons, des documentaires qui vous présentent la connaissance du futur, c'est pipeau. Et la première chose à demander, c'est « Oh, c'est extraordinaire, vous connaissez le futur et tout. Est-ce que je peux savoir si le PSG va gagner ce soir ?» Alors, dans Winamax, c'est quand on donne pas le nombre de buts, la cote est petite, mais je peux gagner 50 euros ce soir. Attendez, je peux pas savoir ça dans le futur. Dites-moi, je peux vous dire quand vous allez mourir et de comment vous allez mourir. Mais si vous me prenez pour une andouille, vous allez faire des probabilités. Et puis dans 10 ans, je serai pas là pour le, vous serez pas là pour le voir, et je serai pas là pour vous obtenir le remboursement. Dieu est un esprit éternel qui connaît toutes choses. C'est lui qui peut faire des prophéties. Par exemple, il dit à Abraham, ta foi se répandra dans le monde entier. C'est écrit. À Qumran, on a trouvé heureusement des Bibles de 400 ans, 500 ans avant Jésus-Christ, puisque ceux qui sont anti-religieux ou autres, qui luttent contre la religion, disent « mais ça a été écrit après, tout ça, c'est tardif et tout ». Avec Qumran, on a découvert des Bibles très anciennes. Donc les promesses faites à Abraham, c'était des siècles avant. Que quoi ? Avant Jésus-Christ, donc théoriquement 1700 avant Jésus-Christ, hein, mais au moins 400 ans avant Jésus-Christ, vous avez un bonhomme qui a dit « Notre petite religion sera connue dans le monde entier ». Vous voyez ? Vous n'avez pas énormément d'hindous en France. Vous voyez ? Vous allez me dire « Oui, mais il n'y a pas énormément de chrétiens en Chine ». Ouais, si on pouvait leur permettre de le devenir, il y en aurait peut-être plus. Et en Inde, la même chose. C'est des persécutions religieuses extrêmement sévères. Hein. Il est même interdit dans certains gouvernorats en Inde d'avoir la Bible. Oui. Parce que c'est la religion de l'étranger. Bon, au Japon, les shoguns, c'était la peine de mort quand vous étiez chrétien. Hein, ils sont sympas, hein, ils font les machins, ils ont un beau truc. Mais ils vous coupent la tête, entre la poire et le fromage. Enfin, entre le... le sushi et le machin. Eh bien, voyez-vous que vous ayez actuellement 2 milliards de chrétiens, sans compter les musulmans, Et les juifs, 25 millions, les musulmans, 1 milliard 400 millions. Vous avez donc la moitié de l'humanité actuellement qui se revendique d'Abraham. Quand même pas rien. Et quand vous lisez dans un vieux bouquin qui a des siècles avant Jésus-Christ que le Dieu d'Abraham a le culot de dire « Moi, je serai plus puissant que la religion égyptienne qui a deux balles qui actuellement a le culte d'Osiris, quoi. Elle a échoué, la religion égyptienne, on est d'accord. Même si tout le monde va voir les tout en camon et comme oh l'or et tout, c'est merveilleux. Oui, mais enfin, il faut voir comment certains enterraient aussi des serviteurs et des servantes pour qu'ils soient là après. Après, ils ont fait des statuettes, c'était moins cruel. Mais bon, donc, si vous voulez, qu'une religion annoncer à un tout petit peuple, pour qu'il garde la foi, respecte et s'accomplisse comme ça dans le futur d'une manière absolument incroyable, ça c'est le vrai Dieu. Vous voyez ? C'est la connaissance du futur. Et alors, il a créé d'abord les anges, création des esprits angéliques appelés à entrer dans l'amour de Dieu. Quelle est la vie intime de Dieu ? La vie intime de Dieu, c'est de se connaître. Dieu pense à lui, sans être narcissique. Il pense à lui. Alors à quoi il pense exactement ? Ben à lui. Alors comme il est infiniment bon, infiniment intelligent, c'est inépuisable sa pensée intérieure. Vous voyez ? Si vous voulez, quand vous voyez des plantes, vous dites... Tiens, il y a celle-ci, il y a celle-là. Mais Dieu a conçu toutes ces plantes. Et si vous avez fait des croisements pour les roses, c'est lui qui a donné le matériel pour ça. Et c'est d'une fantaisie incroyable. La vie intime de Dieu, c'est de se connaître et de réfléchir à lui-même. Mais lui-même, il est tout, si vous voulez. Il a une capacité extraordinaire et illimitée, infinie. Et donc, lorsqu'il réfléchit, il se dit, il s'exprime. Cette expression, dans le langage humain habituel, s'appelle le verbe. Le verbe, c'est le mot dans la phrase qui exprime l'action, mais qui signifie le plus notre pensée, le cœur de la pensée. Je suis... Je mange, je suis fatigué, quand elle appose, tout ça. Bon. Et donc, vous êtes la pensée exprimée, c'est vous-même, et vous connaissez votre pensée, parce que vous êtes des esprits intelligents. Les animaux ne connaissent pas leur pensée, ils la vivent, mais ils ne réfléchissent pas dessus. S'ils savaient qui étaient leur père et leur mère, d'une manière réfléchie, il serait triste de les quitter. Mais ils s'en foutent. Alors, sur le coup, c'est l'absence de l'être qui était là, qui les nourrissait, qui les réchauffait, qui s'occupait d'eux. Mais au bout d'un certain temps, ils s'en foutent complètement de leurs parents. De leurs grands-parents aussi. Vous n'avez pas remarqué ? Vous avez demandé déjà à un chat ou à un chien s'ils se souviennent de leur grand-père ou grand-mère ? De leur arrière-arrière-grand-père, parce que, vu leur génération, ils peuvent les connaître. Ils s'en moquent complètement. Vous allez dire, oui, mais vous êtes dur, ils se souviennent de leur maître. Ah oui, quand ils ont un maître pendant 10 ans, leur mémoire, elle est ancrée. L'odeur, la voix, et pour eux, ne pas avoir cette odeur, cette voix, c'est une inquiétude instinctive très forte. Mais voyez-vous, l'intelligence, c'est autre chose. Et l'intelligence s'ouvre sur la volonté et l'amour. Dieu en lui-même se comprend et s'aime, sans narcissisme. Cette compréhension éternelle s'appelle le Verbe, et il l'appelle son Fils. C'est pas de Dieu, c'est lui-même qui se pense. C'est le miroir de son être. Et vous, quand vous pensez à vous-même, est-ce que vous vous dédoublez ? Non. C'est pas parce que vous pensez à vous-même que poum, vous avez votre pensée qui apparaît. eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu toujours quand il se pense. Mais il y a une relation de Dieu éternel à Dieu qui se pense. C'est une relation. C'est une pensée divine éternelle. C'est pour ça qu'on est monothéiste, hein, malgré la Trinité. Et quand Dieu se pense et que se voit si puissant, si infini et si bon, il s'aime lui-même. Alors c'est pas la Castafiore, hein, qui se regarde dans le miroir, hein. C'est bien plus fin, mais c'est une réalité spirituelle. Nous sommes faits pour nous connaître et nous aimer. On ne peut pas aimer les autres. Ça, je commence déjà la séance 4, hein, où je peux. On ne peut pas aimer les autres si on n'a pas un minimum d'amour de soi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas du narcissisme, c'est d'être bien dans sa peau, pour être vulgaire. C'est de s'aimer soi-même sans égoïsme et sans narcissisme. C'est le propre des esprits. Et Dieu est un esprit éternel, infini, tout-puissant, qui est Père. Il est à l'origine de tout. Il s'exprime totalement, il est Verbe, il est Fils. Et il s'aime d'un amour éternel parce qu'il est infiniment bon et que tout ce qui est beau et bon, c'est lui qui le fait. Il est Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. C'est sa vie. Il est dans une fournaise ardente. Vous savez, vous avez les mouvements d'induction, conduction, je ne sais plus.
Convection.
De
convection.
Convection dans le manteau terrestre. C'est en permanence, ça monte et ça descend à cause de la température. Eh bien, en Dieu, c'est une fournaise ardente de charité. Il se connaît et il s'aime. Dieu est amour. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a des animaux abîmés? Pourquoi il y a des maladies génétiques chez dans le corps humain? Nous le verrons. Mais nous savons bien ce qui est en bonne santé et ce qui est en mauvaise santé. Nous savons bien ce qu'une rose avant qu'elle fane. Vous voyez, Dieu s'aime lui-même et aime le bien intrinsèquement. Dieu est bon, Dieu est amour. C'est, voilà. Et les esprits qu'il a créés, et je m'arrêterai là pour faire une pause, eux ont été créés avec cette intelligence, à cette volonté. Ils se connaissent eux-mêmes, les anges, et ils rentrent en relation avec Dieu et avec les autres anges. Et ils aiment ou ils n'aiment pas. Dieu, lui, ne peut pas ne pas aimer. Il constate la haine chez l'autre, mais lui est toujours amour. Celui qui se sépare de Dieu volontairement et librement. Mais Dieu, lui, ne damne jamais personne. Il est amour. Et attention, moi, si vous voulez, moi, la vraie religion, c'est d'accepter que des gens se damnent et que l'enfer existe. Mais non, l'enfer n'existe pas, personne ne va en enfer et tout. Vous avez Lucifer, qui est un ange extraordinaire, qui est en enfer, avec un tiers des anges. Mais non, à la fin des temps, ils vont tous se réconcilier et ça sera super. Jamais. Lucifer est dans une haine recuite. Et les êtres humains peuvent se damner. Ils peuvent aller en enfer. Excusez-moi si je vous déçois, hein. Mais bon, c'est mon côté intégriste. Seulement, je vous dis que Dieu est amour en même temps. Ça devrait compenser. Donc, on va s'arrêter un peu pour vous respirer, pour prendre un café. Et nous continuerons sur cette existence de Dieu. Et après, on parlera du mariage, hein, si.